Avec Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning. Positive Morning.
9h04 sur Phare FM, on continue ce morning jusqu'à 10h avec vous et avec nos invités, Nathanaël.
Exactement, c'est Christine et Jean-Marie Ville, ils sont là avec nous ce matin. Bonjour.
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 Voilà. Alors, ce matin, on va répondre à vos questions sur le mariage. Plus 33 652 300 342. Puisqu'on clôt cette semaine-là de l'amour avec cette grande thématique sur le mariage. Sandrine.
Exactement. Christine et Jean-Marie Ville sont conseillers conjugaux. Enfin, je fais un peu une grosse bulle là comme ça. Mais vous allez peut-être nous préciser un petit peu plus l'un et l'autre vos activités. Depuis combien de temps vous le faites? Ça consiste en quoi exactement?
Alors Christine, allons-y.
C'est une bonne question. Hein.
Alors voilà, ça fait à peu près 9 ans qu'on fait de la relation d'aide. Et du coup, on aide les couples un petit peu en difficulté. On fait également des rencontres avec les couples sur certaines thématiques. Mm-hmm. Parce que comme on sait, l'amour, c'est une flamme qui s'entretient. Mm-hmm. On n'a pas, comme on avait entendu, un capital amour pour toute notre vie. Mm-hmm. Donc voilà, on apporte des thématiques pour raviver la flamme. Et on fait également des préparations en mariage.
Alors, et ça fait combien de temps que vous le faites?
Ça fait une dizaine d'années.
D'accord.
Alors ces préparations en mariage, c'est quoi? C'est sur une session, sur plusieurs sessions? Comment ça se passe, Jean-Marie?
Alors c'est un ensemble de sessions qu'on peut moduler soit sur des journées, soit sur des soirées. Mais c'est un ensemble de je dirais, 8 sessions de 2 heures qu'on fait avec des enseignements, avec des questionnements pour que peut-être susciter des questions au niveau du couple pour qu'ils apprennent à mieux se découvrir et qu'ils puissent apprendre à confirmer ou infirmer peut-être le choix qui est le leur.
Voilà, on parle donc de mariage ce matin. On parle peut-être de difficultés que vous avez dans votre couple.
Pas comme donc qui nous demande et qui vous demande, Christine et Jean-Marie, comment ça. J'aimerais juste savoir comment accepter une déception amoureuse. C'est la question de pas comme.
Alors, ça, c'est un sujet assez délicat parce qu'effectivement, quand on a eu une déception amoureuse, c'est toujours très douloureux. Mmh. Je pense que c'est important de réaliser effectivement que la douleur est là. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais avec? Alors, personnellement, j'ai envie de conseiller à Pacom. Souvent, c'est de construire un nouveau projet. Parce que on a construit un certain projet, on s'est projeté exactement dans un avenir à deux, et tout d'un coup on se retrouve seul, et du coup c'est important de trouver un nouveau projet. Avec sortir, passer à autre chose, se faire soutenir également par quelqu'un, parce que effectivement la difficulté est là. Et peut-être un petit clin d'œil ou quelque chose qui pourrait peut-être aider, c'est de se dire que si ce gars, en tout cas, a terminé la relation, à quelque part, dites-vous que il ne vous méritait pas.
Mmh. Mmh. Donc là, c'est vraiment ce qui est important. Jean-Marie?
Moi, j'aimerais dire à Pacom, tu es une perle. Il n'a pas su voir que tu es une perle. Il ne te méritait pas. Attends-toi à mieux. Et je pense vraiment que c'est la bonne attitude, que nous sommes précieux. Et je pense que si les gens ne sont pas capables de voir la richesse et la diversité et tout ce que nous avons en nous, eh bien je pense que
c'était pas la bonne personne. Okay. C'est ça que vous voulez dire.
Ce matin, vos questions, c'est peut-être votre question, c'est celle-ci. Est-ce que la situation est vraiment mauvaise entre mon conjoint, ma conjointe? La solution, c'est le divorce. Vous en pensez quoi à cette question, peut-être que des auditeurs, des auditrices se posent aujourd'hui?
Alors, j'aimerais dire que le divorce est probablement une solution, mais je pense que c'est vraiment une solution ultime. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de répondre à l'antenne à une question aussi complexe, mais on peut vous donner quelques pistes.
Oui.
Alors personnellement, c'est vrai que tous les couples ne sont pas toujours faciles, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étapes avant le divorce. C'est déjà de se remettre en question, d'essayer de chercher pourquoi en fait ça ne va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mmh. Et très souvent on peut voir qu'il y a un manque de communication, la communication est souvent la clé, on prend plus le temps ensemble, on a du mal à se voir, surtout dans la société où tout va vite, où on est très pris par le stress, par le travail, par les activités, c'est de se poser, d'arriver de nouveau à reprendre un temps pour parler, pour discuter des choses.
Mais alors, ça c'est une clé, mais comment on fait s'il n'y a qu'une seule personne dans le couple qui se rend compte de cela? Parfois, c'est, on va dire souvent, c'est la femme qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on communique, qu'on parle, mais l'homme, s'il ne se rend pas compte de cela, comment il faut faire pour que ça fonctionne?
Alors, c'est très juste ce que vous venez de dire. C'est souvent les femmes qui se rendent compte effectivement que ça ne marche plus, qu'on a besoin de prendre du temps. Alors, personnellement, j'ai envie de dire que c'est important aussi de pouvoir oser en parler. Et ça, c'est difficile. Chercher de l'aide, alors pas forcément tout de suite chez un psy, mais il y a d'autres moyens, en fait, des amis, des fois, de discuter avec d'autres personnes qui peuvent amener le sujet de réflexion et amener la personne à réfléchir.
Donc, une tierce personne, c'est mieux que d'essayer soi-même de sortir de la situation.
Alors, je pense que dans un premier temps, c'est bien de le faire dans le couple, mais après, effectivement, ne pas hésiter à avoir recours à une tierce personne.
J'aimerais rebondir sur la question de Nathanaël. Tu disais, comment, si un seul se rend compte, comment est-ce qu'on peut communiquer à ça, à l'autre? Et ce qu'il y a de formidable avec l'amour, c'est que si on aime son conjoint et qu'on lui donne de l'amour, l'autre va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Si le mari, qui était distant, devient tout à coup attentionné, lui emmène des fleurs, si la femme qui était un petit peu blessée et aussi peut-être distante commence à lui faire des bons petits plats, lui faire un bisou en rentrant du travail, je crois que vraiment il y a une dynamique dans l'amour, une incroyable, un potentiel qu'on ne soupçonne pas et qui est capable de toucher le cœur du conjoint, et c'est quelque chose qui est communicatif. Quand, peut-être vous avez déjà remarqué, chers auditeurs, quand on vous aime, vous êtes dans un environnement agréable et vous êtes bien et tout se passe bien. Si quelqu'un vous vient avec des critiques, avec des reproches, avec des choses négatives, bah tout de suite on se ferme, et je crois que c'est vraiment un des secrets, c'est d'aimer l'autre et c'est de faire des choses favorables pour l'autre.
Avant de prendre une question d'un auditeur, d'une auditrice, on parlait de divorce tout à l'heure. On est dans une période où finalement, quand quelque chose casse, on jette. Et c'est un petit peu ce qu'on disait cette semaine, notamment aussi dans le mariage. Et le divorce est tout de suite la solution. Est-ce vraiment la solution?
Alors, effectivement, on est dans une société où on jette dès que ça ne va plus. Et j'aimerais surtout rebondir par rapport à notre expérience en tant que conseiller conjugaux et familial. En fait, souvent, les couples qu'on reçoit nous disent « ben, en fait, je l'aime plus ». Et souvent, on voit que les divorces sont basés sur un manque d'amour. Et oui, c'est un petit peu dommage parce que ils vont essayer de retrouver quelque chose ailleurs, et puis quand ça ne marchera plus, quand ils auront plus d'amour, ils repartiront. Donc la question que je me pose, c'est cet amour, en fait. Est-ce que le divorce est une solution quand il y a un manque d'amour? Je ne pense pas, parce que l'amour, effectivement, on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, un capital amour quand on se marie qui dure toute la vie. Mais l'amour, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui s'entretient.
J'aimerais dire que l'amour, c'est vrai que c'est une émotion vraiment formidable. Vous vous rappelez peut-être tous, ou la plupart d'entre nous, quand on a des papillons, etc. Et c'est extraordinaire. Mais l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est s'engager envers l'autre, c'est se donner envers l'autre. Dans la Bible, peut-être connaissez-vous l'histoire de Jésus, qui lui était quelqu'un qui aimait beaucoup et qui était prêt simplement à se sacrifier. C'était pas quelque chose de sentimental. Et il a encouragé les disciples, il nous a encouragé, nous, à aimer l'autre d'une manière en se donnant et en faisant des efforts. Et faire des efforts, en ce qui me concerne, ça me coûte, ça procure pas forcément des papillons, mais c'est une dynamique qui fait que quand je me sacrifie, quand je cherche l'intérêt de l'autre, l'amour chez l'autre est suscité et mutuellement ça se reconstruit et ça remonte.
Alors ça, c'est beau, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Mais quand on s'épuise à donner beaucoup d'amour et qu'on ne voit rien en face, c'est peut-être logique que les personnes se disent, voilà, j'ai donné tout, mais j'ai besoin d'amour moi aussi en retour, j'ai besoin de quelque chose. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui disent, j'ai tout donné, j'ai essayé, mais il n'y a rien en retour, je ressens rien. Enfin, il n'y a rien qui arrive.
Bien sûr, c'est une question pertinente. Et parfois, Le problème, c'est simplement qu'on donne à l'autre autre chose que ce qu'il a besoin. Il existe un livre merveilleux qui s'appelle « Les langages de l'amour » de Gary Chapman, et il décrit 5 familles de langages d'amour. Sans aller dans le détail, mais c'est vrai que c'est quelque chose où souvent on donne à l'autre ce qu'on aimerait nous-mêmes recevoir. Et l'autre a peut-être besoin d'autre chose, de quelque chose, peut-être qu'on lui donne de l'écoute, peut-être qu'on lui donne des cadeaux, et lui, ce qui est important pour lui, c'est peut-être le toucher, ou peut-être que c'est les paroles valorisantes. Et donc c'est important de décoder, d'apprendre à connaître son conjoint, et ce genre d'ouvrage peut vraiment aider, et bien sûr le fait de demander à quelqu'un.
Oui, alors on dit juste un langage de l'amour tous les matins, notamment plusieurs fois dans la journée. Vous le retrouvez en tout cas dans le morning tous les matins, 6h40 notamment.
Stéphanie nous pose la question suivante. Avec mon mari, nous sommes ensemble depuis 4 ans et nous sommes chrétiens depuis 1 an et demi. Étant en congé parental, j'ai la chance de pouvoir étudier plus profondément la Bible, car j'ai plus de temps. Du coup, ce qui se passe, c'est que nous prenons 2 chemins différents. Je passe pour une originale, car je prône l'amour et la bienveillance. Comment gérer cette séparation au niveau de nos convictions? Nous ne nous comprenons plus pour les sujets importants. Christine.
Merci Stéphanie pour ce message. Je pense que c'est important même pour les autres auditeurs, parce qu'effectivement, dans une vie de couple, on n'avance pas toujours au même rythme. Chacun a son cheminement à faire et chacun va à son rythme différent. Dans notre couple, c'est pareil. On ne voit pas toujours les choses de la même manière et au même moment, parce qu'on chemine. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer tout simplement à être un exemple pour le mari, pour les enfants, pour la famille. Mais pas un exemple au niveau des mots. On a toujours tendance à dire « faut faire comme ça, j'ai vu ça comme ça, ce serait bien de faire, d'éduquer nos enfants de telle manière ». Je pense que ce qui est important, c'est d'être un exemple dans le comportement. Vraiment de mettre en pratique cet enseignement qui vous fortifie en fait, mais vraiment de le mettre en pratique. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de prier pour votre mari et de prier pour la famille, afin qu'ensemble vous trouviez une voie, un chemin.
Tout à fait. C'est très important de ne pas imposer votre point de vue. On comprend votre tristesse, alors que peut-être vous avez fait des découvertes, vous avez découvert des trésors et vous avez envie de les partager. Priez pour que Dieu révèle et qu'il vous accorde la sagesse pour transmettre ces choses avec tact, avec douceur, de manière à ce que ce soit recevable pour votre mari.
Alors on parlait tout à l'heure d'avoir une mentalité un peu de, on va dire, chose jetable quoi. Quand ça marche plus, on jette, on fait ça un petit peu avec, c'est notre société de consommation un petit peu, mais on reproduit ça aussi un peu dans nos relations, vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait, et je déplore un petit peu l'influence de la télévision, des médias qui nous martèlent avec des films. Dans pratiquement tous les films, vous allez retrouver des divorces, des remariages. Y a des séries très célèbres dont je tairai le nom, où on se divorce, on s'aime, on se jette. Et je pense que c'est quelque chose qui est instillé jour après jour, 24 heures sur 24 sur ces médias. Et comme on est quelque part influencé par ce qu'on regarde, si on passe 1 heure ou 2 heures à regarder la télé par jour, eh bien je ne peux pas dire que ça ne va pas m'influencer. Et donc à force, finalement, on est pris par cette mentalité de jeter, alors qu'au fond, c'est réparable. La génération de mes parents était dans cette mentalité de « tout est réparable ». Et je pense que c'est important de reprendre cette idée de persévérance dans le couple, de faire des efforts et d'être prêt à se sacrifier, à peut-être parfois à dire « bah écoute, je vais me taire devant cette situation et je ne vais pas répondre parce que ça va juste envenimer les choses », peut-être à se dire « bah écoute, je vais peut-être changer de pièce pour pas envenimer les choses », et simplement faire des efforts en faveur de l'autre. Bien sûr, une notion qui est liée à ça, c'est le pardon. Il n'est pas possible de restaurer une relation difficile sans qu'il y ait un pardon. Et pardonner, ça veut dire à un moment donné lâcher prise et arrêter d'utiliser ce que l'autre a fait contre moi, de l'utiliser contre lui, c'est-à-dire lui remettre sa dette. Et c'est une démarche peut-être difficile, coûteuse, mais qui est une des clés d'un mariage réussi. Le couple, c'est vraiment une école formidable de ce que Dieu souhaite pour l'homme et la femme. Si on réussit son couple, si on réussit à communiquer avec une femme avec qui on est quand même très souvent, qui est proche, qui voit tous nos défauts, eh bien, je crois que c'est vraiment là que Dieu nous donne la réussite aussi à l'extérieur. Et donc, c'est important de persévérer à ce travail à l'intérieur du couple, à se remettre en cause et être prêt plutôt à se remettre en cause soi. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans l'enseignant tout à l'heure, le seul levier qu'on a pour agir, c'est soi-même. Mmh. On ne peut pas transformer l'autre, on ne peut pas agir sur l'autre. On peut par contre, nous, faire des efforts et être favorable, l'aimer, lui faire des cadeaux, lui faire des câlins, lui parler positivement, lui donner, lui rendre un service et plein d'autres choses encore.
Plus 33, 652, 300, 342. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce genre de discours? Ben dites-le nous aussi. En tout cas, ce sont des clés qu'on vous donne ce matin. Peut-être pas trouver des solutions tout de suite, mais des clés qui vous permettront d'avancer dans votre couple.
Jean-Marie, vous parliez tout à l'heure des langages de l'amour et je crois que c'est capital en effet de savoir en fait avec quel langage fonctionne le conjoint. Il y a plusieurs types de langages, c'est d'ailleurs, on en parle dans le livre, enfin c'est Gary Chapman qui en parle, il est psy hein, d'ailleurs, je ne crois pas me tromper en me disant qu'il est psy. Oui, tout à fait. Et il en parle dans le livre, les 5 langages de l'amour. Est-ce que vous voulez bien un petit peu développer sur ces langages?
Alors j'aimerais redonner un petit peu peut-être la soif. Nous avons rencontré un couple qui avait 20 ans de mariage et où monsieur disait voilà, je décris mon problème, j'aime ma femme et je lui transmets sans cesse cet amour et je reçois rien en retour. Et ce qui est étrange, la femme qui était à côté quand c'était son temps de parole a dit exactement la même chose. J'aime mon mari, je lui donne ce qu'il attend de l'amour et en fait il me donne rien en retour. En fait, j'ai ma langue à fourcher, elle ne donnait justement pas ce qu'il attendait. Mmh. Puisque lui attendait les cadeaux et elle attendait les moments de qualité. Mmh. Donc lui donnait les cadeaux à son épouse alors que ce n'était pas quelque chose qui lui parlait et elle donnait des moments de qualité à son époux et il n'attendait pas cela.
Christine, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces langages de l'amour, justement ?
Alors, j'aimerais peut-être juste citer les 5 langages de l'amour pour savoir un peu de quoi on parle. Donc, c'est les moments de qualité, c'est de passer du temps ensemble, du temps de qualité sans être... sans avoir la télé, la radio ou autre chose qui vient perturber le couple, mais vraiment un temps juste à deux ou les enfants.
Ça, ce sont généralement les femmes qui attendent ce genre de... Il y a des hommes, bien sûr, mais en grande majorité, ce sont des femmes, non?
Oui, en général, c'est les femmes, même si de plus en plus, on voit que les hommes en ont besoin aussi. Mais c'est vraiment un temps où on partage notre vécu, ce qu'on ressent. Et comme les femmes sont beaucoup plus dans le sentiment, dans les émotions, ben, forcément, le moment de qualité est important pour elles.
Donc, si elles reçoivent un cadeau, pour elles, ce n'est pas un signe d'amour, puisque si elles n'ont pas ce temps de qualité?
Alors, ça dépend. Il y a des femmes qui sont très attachées aussi au cadeau, parce que le cadeau, ça marque à quelque part une attention qui vient confirmer l'amour. Mais pour certaines femmes, par exemple moi, les cadeaux ne me touchent pas particulièrement. Si mon mari m'offre un cadeau, bien sûr, je suis très heureuse. Mais s'il ne m'en donne pas pendant 6 mois ou 1 an, je ne vais pas remettre en doute l'amour qu'il a pour moi. Par contre, le moment de qualité, si je ne l'ai pas, eh ben là, au bout de quelques jours, au bout de 5-6 jours et qu'on n'a pas le temps, eh ben forcément, je ne vais pas me sentir aimée.
On commençait à aborder les langages de l'amour. Alors, il y a entre autres le temps de qualité. Est-ce qu'on peut aborder aussi les autres langages dont parle Gary Chapman dans son livre ?
Tout à fait. Alors, il y a effectivement le moment de qualité, il y a les cadeaux, il y a des personnes qui sont très touchées quand ils reçoivent un cadeau, parce que c'est le signe de l'affection qu'on porte à l'autre. Il y a également le service rendu, donc c'est tous des services qui normalement le conjoint ne fait pas automatiquement, mais par amour pour son conjoint, il va le faire. Je donne toujours l'exemple des poubelles à sortir, souvent c'est les hommes qui sortent les poubelles, mais on peut très bien, pour rendre service à son conjoint, se dire bah tiens, aujourd'hui je vais le faire parce que je sens qu'il est fatigué, parce qu'il a autre chose, il fait autre chose, et du coup bah, le conjoint va se sentir aimé de se dire bah tiens, elle a vu que j'étais fatiguée, elle l'a fait pour moi.
Et à contrario, les femmes peuvent faire leur passage, le ménage, etc. Bien entendu, hein, ça va
tout
dans les deux
fait,
sens.
Merci, non, justement, le repassage, c'est quelque chose que les femmes font régulièrement, donc c'est pas un service rendu, mais c'est par exemple rentrer le bois, soi, qui est un travail plutôt masculin, de se dire, bah, tiens, mon mari, voilà. Donc, en fait, pardon, ce que tu voulais dire...
Ce que je voulais dire, c'est l'inverse, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est voilà, que les hommes peuvent aussi rendre service aux femmes sur des tâches qui sont des choses qu'elles
font j'avais mal compris.
Régulièrement, voilà.
Tout à fait.
D'autres langages également ?
Oui, alors il y a également les paroles valorisantes. Hein, donc, les paroles valorisantes, c'est de dire à l'autre, hein, verbalement, je t'aime. C'est de le dire, de dire je t'aime, mais ça peut aussi être écrit par SMS, un petit post-it.
Les mots, c'est, en tout cas, d'utiliser les mots.
C'est d'utiliser les mots pour dire à l'autre combien il est important pour nous. Je t'aime, tu es précieux, tu as de la valeur, j'apprécie d'être avec toi. Voilà, des mots qui sont encourageants et que l'autre peut traduire comme elle-même ou il m'aime.
Oui, c'est ce qu'on retrouve régulièrement peut-être, enfin en tout cas moi j'ai déjà entendu, mais il m'aime pas, il me dit jamais je t'aime. Donc là, ça fait partie de ces langages-là. Il y a quelqu'un qui en face attend qu'on lui dise je t'aime, puisque c'est le langage dont elle a besoin, et l'autre derrière dit mais non, je t'aime, regarde, je te fais des cadeaux, des choses comme ça. Donc là, c'est l'incompréhension entre les différents langages.
C'est ça.
Voilà. D'autres langages également, Jean-Marie, peut-être ?
Oui, il y a également le toucher, hein, qui est le dernier des 5 langages principaux qui sont évoqués dans ce livre. Mais je vous invite vraiment à le lire parce que c'est quelque chose qu'il est important de comprendre avant de pouvoir l'évaluer. Et le toucher physique, donc quelque chose qui n'est pas forcément sexuel, mais qui peut être simplement de l'affection, de passer la main sur l'épaule, de se blottir ensemble, de se donner la main. Bien sûr, il y a tout ce qui est sexuel qui se rajoute, mais je crois que c'est aussi un langage important. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a besoin de tous ces langages, mais qu'ils ont une importance différente selon les personnes. Et donc, c'est important de cibler ceux qui sont les langages principaux de votre conjoint. Et il y en a un ou deux, hein, qui sont vraiment importants. Par exemple, par rapport aux paroles valorisantes, si par exemple votre conjoint y est sensible, eh ben, il sera extrêmement sensible aussi aux paroles dévalorisantes. Et donc, c'est important de faire attention à la critique, à la manière de le dire.
La conclusion à tout ça, on a vu que les langages sont très importants. J'allais dire, c'est même la clé pour essayer de repartir sur de bonnes bases avant de se dire c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Christine ?
Oui, je pense que c'est une des clés, c'est d'essayer de chercher à comprendre comment l'autre se sent aimé. Et comme on avait déjà dit, c'est le seul levier où je peux agir, c'est moi. Donc quand je vois que dans le couple ça ne va plus, ce qui est important, c'est justement de me dire ben, je vais chercher à comprendre comment mon conjoint se sent aimé et je vais appliquer ce langage. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est pas forcément inné.
Hein, oui, quand c'est pas son propre langage, voilà, on doit du coup apprendre une autre langue finalement.
C'est ça. Et c'est pas toujours facile. Je sais que par exemple mon mari est très sensible aux paroles valorisantes. Pour moi, dans ma famille, ça n'a pas été quelque chose qu'on pratiquait facilement. On n'était pas dans le sentiment ou dans les paroles. Et du coup, il a fallu vraiment que je réapprenne à parler. Et donc, un petit conseil pour ceux qui nous écoutent. Pour moi, ça a été très difficile. Mais j'ai commencé par des petits post-it. Je posais des post-it, un petit mot sur le coussin, je t'aime, tu es précieux pour moi, etc. Ça permet en fait de commencer un langage qui nous est pas habituel, mais de pouvoir l'appliquer.
Plus 33 652 300 342, c'est le numéro pour réagir. Votre mot de conclusion, Jean-Marie, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, vous avez peut-être quelque chose à rajouter ?
Oui, en effet, Christine vient de dire de réaliser ou d'être attentif à comment l'autre se sent aimé. Et j'aimerais simplement rappeler qu'on est martelé peut-être par des exemples, par des médias qui nous montrent que moi je suis important, que la star est importante et que les autres...
L'égocentrisme, moi.
L'égocentrisme et que les dégâts collatéraux sont pas importants, alors que c'est super important et que finalement quand moi je m'occupe des autres et que je cherche à rendre les autres heureux, je deviens heureux et ça me rend heureux. Le fait que mon conjoint, que mes enfants, de s'investir pour eux, c'est sûr que les enfants ne sont pas toujours reconnaissants, mais ce serait un autre débat, le temps ne le permet pas. Mais je crois que vraiment, c'est une des clés, c'est de dire « je suis prêt à dépasser mes frustrations et à aimer l'autre d'une manière pratique ». qui correspond à son langage.
Les langages de l'amour de Gary Chapman, on vous conseille ce livre-là. Vous retrouverez l'ensemble de ses interventions de 9h à 10h, également en replay à partir de 11h tout à l'heure, Sandrine.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce morning. Merci beaucoup à Christine et Jean-Marie Ville pour votre présence ce matin. Vous passez une très très bonne journée à l'écoute de Phare FM et un bon week-end. Ciao, ciao.
À lundi.
Au revoir. Au revoir.